petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Quelle différence y a-t-il entre la dictature et la démocratie ? La dictature, c'est « ferme-la », et la démocratie, c'est « cause toujours ». Cette blague, bien connue, exprime une déception politique populaire. En fin de compte, le citoyen est hors-jeu, aussi bien dans une dictature qui le contraint à se taire, que dans une démocratie égarée dans des bavardages sans qu'il en sorte grand-chose. Comme toutes les blagues, celle-ci n'est pas totalement fausse quant au ressenti de beaucoup de citoyens. De ce fait, une grande partie de la population s'est jetée dans les bras de tel ou tel populisme pour y espérer enfin des décisions claires, rapides et populaires. Est-ce la bonne solution ? Le populisme n'est apparemment pas, la dictature, car le chef d'État est élu. Et ce n'est pas non plus la perte de temps du parlementarisme démocratique en bavardage qui perd le temps en bavardage et dispute. Attention cependant, tous les dictateurs du monde et de l'histoire arrivent au pouvoir sur une vague populaire très importante, largement majoritaire. Hitler a été élu, mais peu à peu, ça se gâte pour eux, et les dictateurs tentent alors vainement de se maintenir par les répressions policières et militaires. Finalement, la plupart du temps, un temps trop long, les dictateurs sont vaincus. Tout populisme risque bien de n'être qu'un culte du chef charismatique, apprenti dictateur. Pourtant, les individus voudraient pouvoir s'exprimer, mais sans l'intermédiaire d'un parlement discrédité par le leader populiste. Alors ce sont les meetings de masse, où le chef parle par slogans simples, voire simplistes et démagogiques. Le peuple répond par des ovations copieuses, puis par des référendums, où l'individu se sent porté par la foule et croit s'exprimer par ce genre de plébiscite. Encore moins que dans une élection, le citoyen embrigadé dans le populisme ne participe pas à l'élaboration des lois et autres projets. Chaque personne peut cependant s'exprimer sur les réseaux sociaux. Les opérateurs de réseaux ne manquent pas. Théoriquement, chacun peut effectivement dire tout ce qui lui passe par la tête. Comme pour la consommation des ménages, on est dans le temps de l'immédiateté, dans le temps de l'instant, tout et tout de suite. Réflexion et raison sont lentes et ennuyeuses. Pour s'intéresser et intéresser l'éventuel interlocuteur qui se trouve connecté, on marche à l'émotion. D'ailleurs, le leader populiste en use et en abuse. En fait, hélas, par les réseaux sociaux, la plupart du temps, chacun cherche à être reconnu par les autres comme quelqu'un qui compte. Les plus doués dans ce manège de séduction peuvent devenir influenceurs et avoir des abonnés sur son réseau social, les fameux followers, qui permettent à l'influenceur de se faire de belles cagnottes. Le dialogue futile s'achète et se vend sur les réseaux sociaux, en soif d'émotion et de scoop. La politique, bien sûr, y devient émotionnelle et réactive dans l'instant. Le leader populiste en joue pour son plus grand bénéfice. Alors, oui, j'ai dit dialogue futile, mais très souvent, ce n'est même pas un dialogue. En effet, les praticiens des réseaux sociaux s'enferment joyeusement dans des sortes de clans, des clans de goût, des clans d'action et d'opinion communes, bref, qui se ressemblent, s'assemblent, Azimus, Asinum, Fricat, disaient les Romains. Les enchères et surenchères d'avis mutualisés dans des congratulations réciproques surgissent de part et d'autre, ou bien alors surgissent des ruptures virulentes. Pas de dialogue, pas d'altérité, d'ouverture à une altérité, monologue à plusieurs gorges, mais une seule voix. Très vite, en s'encourageant mutuellement, les uns les autres, un clan sur réseau social peut s'engouffrer dans la voie du complotisme sous forme d'affirmations autoproclamées et isolées dans l'entre-soi du clan fermé. On peut se faire croire n'importe quoi. Là encore, le leader populiste le sait bien. Les complotistes simplistes sont en quelque sorte xénophobes. Xénophobes à l'égard des autres, à l'égard de ceux de l'extérieur, extérieurs à la bulle numérique du clan. Ces étrangers méprisés sont ceux dénoncés sous le nom d'élite. Élite des sachants, élite intellectuelle, élite jugée dépourvue d'émotion, élite du pouvoir. Le populisme ne supporte pas ce qu'il appelle les élites, lesquelles ne sont en fait que des gens normaux qui réfléchissent. Le populisme politique et celui des réseaux sociaux n'expriment que des avis tranchés et tranchants, radicaux, simples, simples à comprendre. Interdiction de nuances qui sont le propre de la soi-disant élite qui résonne. On s'adresse avant tout à l'émotivité du clan. Je viens de critiquer l'actualité. Alors c'est vrai, la critique est aisée, mais l'art est difficile. Que faire pour dépasser tous ces travers populistes? Pour se sentir utile, reconnu, acteur de la vie sociale, n'y a-t-il pas les corps intermédiaires? Bien si, justement. Les corps intermédiaires existent, mais ne sont guère écoutés des pouvoirs publics. Et cela depuis plus de 30 ans. Les corps intermédiaires sont considérés comme seulement capables d'être négatifs, râleurs et accusateurs du gouvernement, gouvernement pourtant systématiquement appelé au secours quoi qu'il arrive. Tout ça est caricatural, c'est vrai. Les corps intermédiaires sont les familles, les collectivités territoriales, les entreprises, les religions au sens sociologique, les ordres des médecins et des avocats, les médias, les chambres consulaires, les partis politiques, les associations et les syndicats. Bref, les corps intermédiaires sont des groupes organisés de citoyens qui constituent un lien entre les individus et l'État. Les corps intermédiaires sont ainsi un rempart contre le populisme, qui, lui, croit en un rapport direct du chef et du peuple sans intermédiaire. Par un corps intermédiaire, l'individu communique avec le pouvoir et propose des changements. Il est acteur. Chaque citoyen devient acteur par le corps intermédiaire. Le pape Paul VI disait, je le cite, « Là où ces corps intermédiaires font défaut, la communauté nationale peut être la proie de quelques individus qui s'arrogent un pouvoir exagéré dans le domaine économique, social et politique. Ou bien alors, la communauté nationale, en l'absence de corps intermédiaires, peut être la proie des pouvoirs publics, car sans ces corps intermédiaires, les pouvoirs publics envahissent le domaine privé et finissent par violer les droits fondamentaux de la personne humaine. » Fin de citation. L'État, hélas, est devenu de plus en plus jacobin. Il n'applique pas le principe de subsidiarité. Malgré les efforts de décentralisation, l'État concentre les pouvoirs publics, alors que la subsidiarité, par la subsidiarité, les décisions doivent être prises au plus près des personnes concernées. Personnes concernées que les corps intermédiaires animent et expriment. Le Conseil économique, social et environnemental, troisième assemblée de la République, rassemble les corps intermédiaires de la France qui y dialoguent et proposent ses travaux au gouvernement et aux médias, lesquels n'en tiennent pas assez souvent compte. Nous gaspillons ainsi un moyen pour que les citoyens se sentent partie prenante de la gouvernance de la France et n'aillent pas soutenir les dangereux populismes.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.